Bonjour à tous. Alors j'ai la voix un peu cassée ce matin. Ce n'est pas parce que j'ai crié hier soir parce que la France a gagné un certain match de rugby. J'ai crié vendredi matin, à 8h du matin, parce que les enfants n'étaient pas du tout pressés de prendre le bus qui allait partir. Alors voilà, j'ai essayé de mettre en pratique ce qu'on a appris la semaine dernière sur la patience envers les enfants. J'étais très très patient. J'ai poussé la patience jusqu'à un certain moment où il était plus temps d'attendre mais d'agir. Alors je les ai criés pour qu'ils se pressent un peu plus pour prendre le bus. Je ne sais pas si ça a marché parce qu'ils l'ont pris un peu de justesse. Mais voilà, en tout cas, je le sens encore dans le regard. Genre, peut-être que j'ai attrapé froid aussi, mais ça n'a pas arrangé les choses. Voilà pourquoi j'ai un peu la voix, un peu grave, plus grave que d'habitude. Vendredi soir, j'ai été à mon atelier de jazz hebdomadaire. Alors je trouve le jazz vraiment intéressant parce que je trouve beaucoup de parallèles avec la foi chrétienne. Pendant l'atelier de jazz, il y a des moments de théorie où on apprend comment jouer du jazz. En théorie, les harmonies, les gammes, les modes, les accords, les degrés, toutes sortes de théories. Et il y a des moments de mise en pratique. Voilà, on a appris en théorie, et puis il y a des moments où on met en pratique ensemble, la pratique d'ensemble, ce qu'on a appris. Et en général, quand il s'agit de théorie, je me sens assez à l'aise. J'aime bien la théorie. Voilà, je comprends les mécanismes, les différentes gammes, les manières de les utiliser, etc. Et en plus, ça ressemble beaucoup aux mathématiques. Comme j'ai été dans ce domaine aussi dans ma jeunesse, premières études, c'était les maths. Et en général, d'ailleurs, on fait beaucoup de parallèles entre les maths et la musique. La gamme de musique qu'on utilise aujourd'hui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, eh bien, c'est une gamme inspirée de la gamme de Pythagore. Le même Pythagore qui a donné son nom au théorème de Pythagore. À la base, la musique, c'est des maths. Quand on pince des cordes de longueurs différentes, cela produit des notes différentes. Et donc, les mathématiques ont été utiles pour élaborer les bonnes longueurs de cordes afin d'avoir des notes, des ensembles de notes harmonieuses. Alors, pour revenir à cet atelier de jazz, je disais que j'arrivais généralement à comprendre lorsqu'il s'agit de théorie. Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, c'est plus compliqué pour ma part, car il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut passer du temps. C'est aussi compliqué parce qu'il faut improviser. Autrement dit, il faut se libérer de la partition. Alors l'improvisation, ça ne consiste pas à jouer comme on veut quelque chose de totalement nouveau. En fait, l'improvisation consiste à jouer selon certaines règles harmoniques, et c'est à force de s'exercer que cela devient naturel, tellement naturel que l'on s'exprime avec la musique. Mais cela demande de connaître la théorie et de s'entraîner. Et ce n'est que petit à petit que l'on arrive à improviser, ce que j'ai encore du mal à faire en jazz. Et un soir, lors d'un moment de mise en pratique, les musiciens avaient du mal à se lancer dans l'improvisation. Ils avaient joué avec moi, on avait du mal à jouer un peu dans l'originalité. Et le prof de jazz a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, vous voyez, être dans la liberté, c'est difficile. Être dans la liberté, c'est difficile. C'est difficile car on aime bien rester dans le cadre que l'on connaît. Et je vois un parallèle avec la vie chrétienne. C'est compliqué d'être libéré de nos vieilles habitudes. C'est compliqué d'être libéré de nos travers, de nos défauts, nos fautes. C'est compliqué de vivre dans la liberté que le Christ nous offre. Pour cela, il faut y travailler jour après jour. C'est bien beau de connaître l'enseignement, mais la mise en pratique est tout aussi importante. Aujourd'hui, je vous propose un texte de la Bible qui nous invite à être cohérents avec ce que l'on croit. Il y a la théorie et aussi la pratique. Il y a la pratique, mais aussi la théorie. On parle souvent, enfin pas souvent, je ne sais pas, mais on parle parfois des gens qui sont croyants, mais non pratiquants. C'est vrai qu'il existe beaucoup de gens qui disent croire en Dieu. Ils disent clairement, mais ils disent clairement que malgré leur croyance en ce Dieu, ils ne mettent pas en pratique. Autrement dit, cela n'a pas de conséquences vraiment dans leur manière de vivre. On peut alors se poser la question s'ils croient vraiment finalement. Parce que si on est convaincu, on met un minimum en pratique. Si je suis vraiment convaincu en théorie que c'est bien de trier mes déchets, normalement cette conviction devrait être un minimum mise en pratique. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui disent croire, mais ils ne pratiquent pas. À l'inverse, il y a aussi le risque, et peut-être on en parle moins, le risque de pratiquer et de ne pas croire. Je pense qu'il existe des pratiquants non-croyants. En fait, la cohérence doit être dans les deux sens. Dieu nous appelle à croire et à traduire en œuvre notre foi. Et de même, Dieu nous invite à agir, à le servir, mais à le servir avec foi. En quel Dieu croyons-nous ? Qui est Jésus-Christ pour nous ? Et lorsque je prie, ai-je conscience de la puissance et de la souveraineté du Dieu auquel je m'adresse ? Le passage biblique que nous allons lire maintenant nous présente qui est Jésus, qui est celui qui nous invite à croire et à le servir. C'est un passage qui affirme et réaffirme la toute-puissance du Seigneur. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8, versets 22 à 39. Luc 8, 22 à 39. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : Maître, maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit : Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres : Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans des endroits déserts. Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Ce texte relate deux récits. Dans le premier récit, Jésus arrête une tempête menaçante et dangereuse. Et dans le deuxième, Jésus chasse un démon menaçant et dangereux. Et ces deux récits sont étroitement liés. La manière dont ils sont racontés nous incite à lire les deux textes, les deux histoires ensemble. Dans les deux passages, il y a une force menaçante et des personnes menacées. Et contre toute attente, Jésus intervient avec succès. Les disciples savent que Jésus est capable de grandes choses, mais à chaque fois, ils sont stupéfaits de découvrir encore et encore ce qu'il peut faire. Commençons par regarder le premier récit. Jésus commence par dire aux disciples « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils auraient dû faire confiance au maître quant à leur destination, parce que si Jésus dit « Passons sur l'autre rive », alors ils arriveront à bon port. Mais la tempête était très violente. L'eau remplissait le bateau, ils étaient en danger. Ils allaient même mourir noyés, et c'est ce qu'ils hurlent à Jésus lorsqu'il le réveille, verset 24. « Maître, maître, nous allons mourir !» Les disciples sont complètement impuissants face à cette tempête. Le texte parle de tourbillon, c'était probablement une tornade. Alors lorsqu'une voiture est en panne, on a de grandes chances pour qu'elle soit réparable. Cela peut coûter cher. Parfois, cela coûterait plus cher d'en acheter une autre que de la faire réparer. Mais en tout cas, quand une voiture tombe en panne, généralement, on peut la faire réparer. Cela peut coûter cher, mais c'est réparable. Mais devant une tempête, que pouvons-nous faire face à une tempête? Il y a parfois des circonstances où l'être humain ne peut rien faire. Des situations qui nous angoissent, qui nous rappellent que nous ne sommes que des hommes et nous ne contrôlons pas tant de choses que ça. De nos jours, l'être humain a tendance à se croire capable de grandes choses, tout puissant. La science et la technologie font de grandes avancées et nous pouvons avoir l'impression de contrôler de grandes choses. Mais sommes-nous si autosuffisants que cela? L'être humain est-il si fort que cela? Les disciples sont en danger de mort à cause de la nature qui les menace. Et dans ce genre de situation, on se sent tout petit. Jésus se réveille, il menace la tempête et le calme revient. Il leur pose ensuite cette question, « Où est votre foi ?» Où est votre foi ? Il me semble que l'on peut faire la distinction entre deux types de foi. Il y a la foi théorique et la foi mise en pratique. La foi théorique consiste à croire en des vérités. Oui, je crois que Jésus est tout-puissant. Je crois qu'il pardonne mes fautes. Je crois qu'il m'offre la vie éternelle. Je crois qu'il faut lui obéir. Je crois que c'est bien de croire en lui. Et effectivement, c'est bien de croire toutes ces affirmations. Mais si cela ne reste que dans la théorie, cela ne sert à rien. On y reviendra avec l'exemple des démons qui, eux aussi, croient en Jésus. En revanche, la foi théorique mise en pratique transforme notre manière de vivre. Ce que nous avons dans la tête descend dans le cœur et s'exprime dans notre comportement de tous les jours. Les disciples n'avaient pas seulement une foi théorique, car ils suivaient Jésus, ils y obéissaient. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas tout compris. Ce qu'il y avait dans la tête n'est pas complètement descendu dans leur cœur. Un peu comme, vous savez, lorsqu'on retourne le sablier, et puis à la fin, ça ne descend plus parce que le sable reste coincé. Personnellement, je trouve que je ressemble aux disciples. Je crois en Jésus, je mets cette foi en pratique, il me semble, mais pas complètement. Les disciples se demandent entre eux, qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et lui obéissent. Ils avaient déjà vu des miracles, mais ils sont encore étonnés de ce que Jésus peut faire. Et leur question est très intéressante. Qui est cet homme ? L'auteur de l'Évangile attire notre attention sur cette question. Jésus est-il seulement un homme ? Ou est-il plus que ça ? S'il est plus que ça, qu'est-ce que ça change pour ma vie ? L'auteur poursuit en nous présentant encore un Jésus tout-puissant avec le récit où il chasse des démons. Ici, la menace ne vient pas d'une tempête, mais d'une légion de démons. Les victimes ne sont pas les disciples, mais un homme qui vient de Gadara, et on l'appelle le Gadarénien. Les dégâts causés par le démon sont impressionnants. L'homme possédé n'avait plus de vie. Il errait dans les tombeaux, il ne portait plus de vêtements, il avait une force surhumaine qu'il ne contrôlait pas, il se blessait et se détruisait. Les démons ont pour objectif de détruire, isoler et détourner l'être humain de Dieu. Lorsque Jésus arrive, le démon se jette aux pieds de Jésus pour le supplier et remarquer la confession du démon. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Tout comme les chrétiens, les démons croient que Jésus est le fils du Dieu très haut et qu'il est tout puissant. Et c'est pour cela qu'ils se prosternent à ses pieds. Mais comme nous l'avons vu, le fait de croire importe peu si notre vie n'est pas en cohérence avec notre foi. Les démons croient, mais ils ont fait le choix de s'opposer à Jésus plutôt que de le servir. Ici, les démons demandent à ne pas être envoyés dans l'abîme, mais plutôt d'entrer dans le troupeau de porcs. Jésus accède à la demande. Le texte ne nous dit pas pourquoi. On peut faire quelques suppositions. J'avais une amie qui a passé à peu près une année dans une tribu africaine. Je crois que c'était en Éthiopie, mais je ne suis pas sûr. Un jour, un homme s'est gravement blessé. Voilà, il s'était blessé à la tête. C'était pas beau à voir, ça saignait beaucoup. Il avait besoin d'être soigné en urgence. Mais la clinique a refusé de le recevoir parce qu'il hurlait, il était en panique, il s'agitait dans tous les sens. C'était au point où tout le monde autour de lui disait « Il a un démon, il est possédé, il est en transe, il ne doit pas entrer dans la clinique. Sinon, le démon sera aussi dans la clinique. Alors mon ami qui voyait ça était tellement sous le choc devant cette scène sanglante qu'elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie devant la clinique. Et à ce moment-là, l'homme blessé a pu entrer dans la clinique. Ils l'ont accepté qu'il entre. Et il a pu se faire soigner. À votre avis, pourquoi l'ont-ils soudainement accepté dans la clinique? Avez-vous un avis? Charlie Dor? Non, il n'a pas pris soin de la fille évanouie. Non, il ne s'est pas calmé. Enfin, oui, parce que tout le monde a cru que le démon était parti dans la fille et que c'était à cause de ça qu'elle s'est évanouie. Et donc, comme le démon était parti, ben, il pouvait entrer. Alors, en réalité, je pense qu'il n'y avait pas de démon, mais c'était ce qu'il pensait. Alors, dans notre texte, Jésus a vraiment affaire à un démon. Là, c'est le cas. Et même une légion de démons. Alors, je me dis peut-être que Jésus leur permet d'entrer dans les ports, peut-être pour que les témoins de la scène se rendent compte que les démons sont vraiment partis ailleurs. Alors, les ports n'auraient pas pu simuler une possession démoniaque, enfin, je pense. Cela nous donne aussi une petite idée de la quantité de démons que l'homme avait en lui. Et après cette délivrance, le gadérénien veut rester au pied de Jésus pour être enseigné. Il est maintenant habillé et dans son bon sens. Il a retrouvé une vie, disons, normale. Jésus ne veut pas le prendre avec lui. Il souhaite qu'il retourne chez lui pour témoigner de ce que Dieu a fait. Il me semble que nous pouvons parfois être un peu comme ce gadarénien. Non pas que nous sommes possédés, mais nous pouvons être abattus par quelque chose. Nous sommes peut-être victimes d'une injustice, d'une maladie, de quelque chose qui nous ronge jour après jour, quelque chose qui nous détruit, qui nous isole, qui nous fait douter de Dieu. Chaque être humain est aussi confronté à ce qu'on appelle le péché, ce qui corrompt notre cœur. Le mal est aussi présent dans notre cœur, peut-être à petite échelle, selon nous, mais il est présent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce texte nous présente un Jésus capable de nous restaurer. Quel que soit le mal qui nous ronge, Jésus restaure. Il a restauré cet homme et il est capable de nous restaurer aussi. Alors pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur ce verset 39. Jésus dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Jésus a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. Cet homme aurait voulu suivre Jésus, probablement pour être enseigné. D'ailleurs, on le voit quand il retrouve son bon sens, on le voit au pied de Jésus, certainement que Jésus l'enseignait, certainement qu'il écoutait l'enseignement de Jésus. Cet homme aurait voulu suivre Jésus, probablement pour être enseigné, mais Jésus avait prévu autre chose pour lui, à ce moment-là. Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Ce texte nous rappelle qu'il y a des temps pour apprendre, pour comprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Et il y a aussi des temps pour mettre en pratique ce que nous avons compris. Il faut les deux. Notre vie devrait être remplie des deux aspects. Être enseigné, se nourrir de la parole de Dieu, et mettre en pratique cet enseignement. Ne soyons pas des croyants non pratiquants. ni des croyants, ni des pratiquants, pardon, des pratiquants non-croyants. Dans le premier récit, les disciples demandent « Qui est cet homme ?» Et dans le deuxième récit, Jésus montre que cet homme, c'est un homme divin. Lui est divin. Cet homme, c'est Dieu. Jésus demande aux Gadaréniens de témoigner de Dieu, et cet homme témoigne de Jésus dans le texte. Parce que Jésus, c'est Dieu. Jésus est plus puissant que les forces de la nature, et Jésus est plus puissant que les forces du mal. Alors pour terminer, je vous laisse simplement quelques questions. Avons-nous une foi cohérente avec nos convictions? Est-ce que ma manière de vivre reflète ce que je crois? Et est-ce que ce que je crois se voit dans ma manière de vivre? Les disciples ont demandé « Qui est cet homme ?» Cet homme, c'est le Sauveur qui vient nous secourir et nous transformer. Tout comme il a secouru les disciples et transformé, restauré le Gadarénien. Amen. Je vous invite à la prière. Alors oui, je n'ai pas mis le deuxième texte, mais simplement les deux points, c'était les deux récits. Prions ensemble. Notre Père, merci parce que tu t'es révélé dans la personne de Jésus, cet homme qui est Dieu, Dieu fait homme, capable de nous secourir en toutes circonstances, capable de faire taire les tornades, les tempêtes, capable de nous restaurer, quel que soit ce qui nous a abîmés, à commencer par le péché, mais aussi les épreuves, les difficultés de la vie. Tu es capable de nous restaurer, non pas pour notre confort, mais pour que nous puissions témoigner de ton action dans notre vie. Retourne chez toi et raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que tu nous demandes, mettre en pratique ce que nous croyons et croire ce que nous mettons en pratique. Aide-nous à avoir une bonne cohérence, un équilibre dans notre vie et que tu puisses être glorifié par notre manière de vivre l'Église et que nous puissions être encouragés, s'édifier les uns les autres grâce à cette famille, comme l'a dit Johan, cette famille spirituelle que tu nous donnes. Merci pour ta grâce et ton œuvre dans notre vie. Amen. Pour faire suite à ces paroles de Jésus et ce texte, je vous propose de chanter ce chant qui dit « Infiniment grand, Dieu est plus grand que toute force de la nature ou toute autre force, infiniment grand ». Et nous pouvons nous lever pour chanter.